Soyez les bienvenus, il est 6h.
Le projet de loi hongrois est une honte. Il établit clairement une discrimination contre des individus sur la base de leur orientation sexuelle.
L'Union européenne durcit le ton contre la Hongrie après la promulgation d'une loi anti-LGBT. Appuyée par Ursula von der Leyen, une majorité d'États membres s'insurgent contre le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Dans ce journal aussi, focus sur l'alliance de la gauche avant le second tour des élections régionales en Ile-de-France. Le procès en appel de Willy Bardon. Les experts se divisent autour de l'enregistrement du dernier appel passé par Élodie Kulik. Ce n'est pas une preuve suffisante selon certains. Et puis c'est un événement dans le monde de l'édition. Gallimard s'offre les mythiques éditions de minuit qui ont abrité des géants de la littérature.
Le journal des sports à suivre, retour bien sûr sur le match des Bleus hier soir et leur qualification pour les huitièmes de finale. Et puis mon invité inattendu qui vient donner quelques conseils aux candidats au bac qui passent leur grand oral. Lui a été sacré meilleur orateur de France. Je l'appelle dans un quart d'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les tensions entre l'Union européenne et Budapest ont débordé sur le terrain du match Allemagne-Hongrie hier soir, mais elles seront à nouveau pleinement politiques aujourd'hui à l'occasion du sommet européen à Bruxelles. En cause, la loi hongroise anti-LGBT qui interdit la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Au moins 17 pays de l'UE exigent son retrait. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Isabelle Horry, plusieurs dirigeants, dont Emmanuel Macron, comptent bien interpeller le Premier ministre Viktor Orban.
Oui, c'est vraiment rare qu'entre membres du club européen, ça chauffe autant. L'émotion se ressent même chez les diplomates. C'est une ligne rouge, la pire loi que nous ayons vue. Orban doit la retirer au plus tard pendant le sommet, tempête l'un d'entre eux. Les dirigeants vont avoir une discussion les yeux dans les yeux, explique une source européenne. Quel sens cela a-t-il d'avoir un projet commun si on n'a pas les mêmes valeurs, s'interroge l'Élysée. À la Commission européenne, Ursula von der Leyen a tapé du poing sur la table.
Le projet de loi hongrois est une honte. Il établit clairement une discrimination contre des individus sur la base de leur orientation sexuelle. Il va à l'encontre de toutes les valeurs de l'Union européenne. Nous ne ferons pas de compromis sur ces principes.
Bruxelles a déjà lancé une procédure d'infraction contre la Hongrie. Elle peut se terminer devant la Cour de justice de l'Union. Évidemment, ça prendra des mois. C'est pour ça que les politiques misent plutôt sur la pression directe. Plutôt que de parler des plans de relance dans chaque pays, comme elle le fait en ce moment, la présidente de la Commission devrait faire un tour d'Europe avec un drapeau arc-en-ciel sur les épaules, suggère même le représentant d'un pays très remonté.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1.
La politique en France est la suite des élections régionales et départementales en Ile-de-France. La gauche s'affiche unie à 4 jours du second tour.
L'écologiste Julien Bayou, la candidate du PS Audrey Pulvar et l'insoumise Clémentine Autain ont fusionné leur liste. Une liste d'union portée par le patron des Verts pour tenter de l'emporter face à la présidente sortante Valérie Pécresse. Mais cette gauche unie a-t-elle une chance de l'emporter ? Élément de réponse avec Claudia Bertram.
Dans le camp de Julien Bayou, on y croit dur comme fer. Même si la présidente sortante, Valérie Pécresse, est arrivée largement en tête au premier tour avec près de 36% des voix. À eux trois, les candidats de gauche totalisent un peu plus de 34%. On est au coude à coude, répète-t-on dans leurs entourages. Mais les additions se font rarement aussi facilement. La politique, c'est pas de l'arithmétique, c'est de la dynamique, explique un socialiste qui l'assure. La dynamique est là. Depuis qu'ils ont topé lundi après-midi, Julien Bayou, Audrey Pulvar et Clémentine Autain multiplient les déplacements ensemble pour afficher leur unité. L'accord a été signé dans la salle d'un hôtel qui s'appelle Risque et Sérénité, raconte un acteur qui a suivi cela de près et qui s'en amuse. Risque pour Valérie Pécresse, sérénité pour la gauche. Un écologiste veut croire que la possibilité de bascule peut mobiliser les troupes dimanche. Valérie Pécresse a bien identifié le danger et s'emploie à dénoncer une gauche extrême. Bref, c'est à la liste qui mobilisera le mieux.
Claudia Bertram du service politique. L'épidémie de coronavirus en France, moins de 10 000 patients sont hospitalisés en ce moment, une première depuis la mi-octobre. En revanche, l'inquiétude grandit autour du variant Delta qui représente désormais près de 10% des cas dans le pays, avec une pointe à 70% dans le département des Landes. Jean Castex et Olivier Véran sont attendus sur place aujourd'hui.
La suite du procès en appel de Willy Bardon à Douai, accusé du viol et du meurtre d'Élodie Kulik en 2012.
Et depuis hier, c'est l'enregistrement du dernier appel de la victime. 2002, bien sûr.
2002.
C'est l'enregistrement du dernier appel de la victime aux pompiers qui est au cœur des débats. Un appel bref et presque inaudible. 26 secondes de bande sonore qui constitue le principal élément d'accusation contre Bardon, car sa voix aurait été identifiée. Et si certains experts ont affirmé qu'il était très incertain de reconnaître une voix sur un tel enregistrement, aujourd'hui, des proches de l'accusé vont venir confirmer qu'ils l'ont effectivement reconnu. Lionel Gougelot.
Un scientifique réputé en matière d'analyse vocale dépose en tant que témoin, et il est formel, la reconnaissance d'une voix est impossible quand on ne distingue pas les mots prononcés sur un enregistrement. Un expert de la police scientifique met en garde la cour. Il y a une marge de doute, dit-il, je ne peux que vous appeler à la prudence. Pas de quoi perturber Didier Seban, avocat du pape d'Élodie, qui attend aujourd'hui les témoignages de proches qui ont bel et bien identifié Bardon.
Là, on a de nombreuses personnes qui ont reconnu Willy Bardon sur cette cassette, qui leur a été passée à plusieurs reprises. Ce sont des personnes qui ont été réinterrogées, auprès desquelles on a vérifié qu'ils reconnaissaient bien la voix de Willy Bardon parmi une série de voix. Et c'est ce qui a convaincu la cour d'assises d'Amiens. Voyons pas comment la cour d'assises du Nord ne serait pas convaincue de la même manière.
Mais pour Stéphane Dacco, l'un des avocats de la Défense, le doute autour de cet enregistrement doit bénéficier à l'accusé.
Quand vous avez des experts qui viennent vous dire « c'est pas possible », cette bande, on ne peut pas l'utiliser. Voilà, comprenez, ouvrez les yeux, on ne peut pas utiliser cette bande. Et que d'un autre côté, il y a des gens qui disent « ah ben si, si, moi je le reconnais ». C'est faire peu de cas du fait que le témoignage humain, il est fragile face à l'expertise.
Expert contre témoignage, c'est certainement le verdict qui se joue actuellement autour de cette bande son. Doué Lionel Gougelot, Europe 1.
6h06 sur Europe 1. On va parler à présent de cette sanction rarissime dans l'Église. Une religieuse française vient d'être expulsée définitivement de sa communauté.
Et cela n'arrive qu'une dizaine de fois par an dans le monde. La sanction vient d'être validée par le Vatican et cette religieuse est donc exclue des dominicaines de Pont-Calec, c'est dans le Morbihan. Et le tout sans motif apparent. Pierre Herbulot.
Exfiltrée en paria, sans même pouvoir récupérer ses affaires, cet automne, la sœur Marie Ferréol est contrainte par des émissaires du Vatican de quitter Manu Militari, la communauté religieuse bretonne dans laquelle elle vit depuis 34 ans. Une exclaustration dans le droit de l'Église qui vient tout juste d'être confirmée sans que la religieuse n'en connaisse les motifs exacts, rien de plus qu'une faute grave sans rapport avec des affaires de mœurs ou de sexualité. Un simulacre de justice canonique dénonce son avocate Adeline Le Gouvello qui ironise. Au moins, elle évite le bûcher.
Alors, dans un autre temps, peut-être qu'on avait de meilleures garanties finalement. Par exemple, au temps de l'Inquisition, il y avait un vrai procès avec des avocats. De manière générale, nous nous sommes systématiquement heurtés à un mur. Pas de pièces, pas de dossier, pas d'entretien, pas de défense. Et le pire, c'est que dès qu'elle a sollicité quelque chose, on lui disait qu'elle faisait du mauvais esprit, que ça n'était pas acceptable.
Aujourd'hui, plus aucun recours n'est possible. Un irrespect total du droit canon qui pourrait partir d'une simple querelle théologique, d'après des témoignages recueillis par l'avocate. Une fidèle aurait reproché à Marie Ferréol son interprétation des textes de saint Thomas d'Aquin avant de faire jouer ses relations à Rome pour éloigner la bonne sœur de la communauté.
Les explications de Pierre Herbulot. Netflix, Amazon et autres Disney Plus devront verser jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires réalisé en France au financement du cinéma et de l'audiovisuel français, selon un décret paru hier au journal officiel après des mois de négociations.
On en vient maintenant à cette actualité littéraire. Le groupe Madrigal, maison mère de Gallimard, vient de mettre la main sur les éditions de Minuit. Les
mythiques éditions, vous voyez ces titres bleus sur fond blanc. Les montants engagés n'ont pas été divulgués, mais cet accord vient mettre un terme à 80 ans d'indépendance. Nicolas Caro.
En général, quand on parle des éditions de Minuit, on dit les prestigieuses éditions de Minuit. Et pour cause, la maison a abrité et abrite encore des géants de la littérature. Samuel Beckett, Marguerite Duras, Jean-Philippe Toussaint, Éric Chevillard ou Jean Echenoz. Fondées en 1941, les éditions de Minuit étaient dirigées à partir de 1948 par un éditeur de légende, Jérôme Lindon. C'est lui notamment qui sera à l'origine de ce qu'on a appelé le nouveau roman, avec des écrivains tels qu'Alain Robbe-Grillet ou Michel Butor. Irène Lindon, sa fille, 72 ans aux commandes de la maison, a dit penser à l'avenir des collaborateurs et des auteurs en s'adossant aux éditions Gallimard qui ne sont d'ailleurs pas en reste côté prestige. Mais l'indépendance de Minuit était devenue proverbiale. En 59, Gaston Gallimard écrivait ceci à Jérôme Lindon : « Je vous envie parfois d'être libre et de savoir l'être. »
Nicolas Caro, spécialiste littérature d'Europe 1. Et puis un tableau de Winston Churchill a été vendu à plus d'1,8 million de dollars aux enchères à New York hier. Une peinture à l'huile, jadis offerte par l'ancien Premier ministre britannique à un armateur grec. Et on est encore loin des 11,5 millions de dollars atteints par un autre de ces tableaux, vendu celui-ci par Angelina Jolie chez Christie's en mars dernier.
Sophie Echen pour le journal 6h09 sur Europe 1. Et on ouvre la page des sports avec vous, Lénaïque Monnier. La France affrontera donc la Suisse en huitième de finale de l'Euro.
Après le nul 2-2 face au Portugal de Cristiano Ronaldo, qui d'ailleurs a marqué ses 108 et 109e buts avec sa sélection hier, un autre joueur a inscrit un doublé, c'est Karim Benzema, qui rouvre enfin son compteur en bleu. On l'écoute.
C'est sûr que c'est important de marquer, même si moi je ne suis pas dans la focalisation du but spécialement. J'aime faire marquer, j'aime marquer aussi. Mais voilà, on attendait mon retour en équipe de France et bien sûr les buts. Donc voilà, aujourd'hui j'ai marqué. Je suis très content du match, de mon match. On s'est battu, c'était pas un match facile. Donc voilà, c'est bien pour la confiance.
Karim Benzema avec Cyril de la Morinerie.
Avec ce match nul, les Bleus terminent donc leader, hein, premier de leur groupe.
Oui, et c'était mal engagé avec une première période où les Bleus n'ont pas réussi à vraiment se montrer, où ils ont commis un certain nombre de fautes, 5 cartons jaunes distribués aux Bleus sur toute la durée du match. La rencontre aurait pu être très différente, estime notre consultant Giroud.
On a eu chaud, mais on a fait une première mi-temps à la pause très faible. On a été tout le temps dominé. Bon, on s'est bien tiré d'affaire. Et puis on a fait une deuxième mi-temps beaucoup plus valeureuse. Et malgré les changements obligatoires qu'on a été obligé de faire et qui se sont avérés judicieux, moi j'étais beaucoup plus satisfait de la deuxième mi-temps. Il faut quand même noter que Benzema va refaire le titre des journaux et d'une autre manière que récemment.
Et il a raison, Giroud, c'est bien Karim Benzema qui fait la une du journal L'Équipe ce matin. La Suisse au prochain numéro, titre Le Journal. Équipe qui avait souri hein, à la France à la Coupe du Monde 2014. Les Bleus avaient gagné 5-2.
On retiendra qu'il n'y a pas de grosse surprise hein, à la fin de cette phase de poule.
L'Allemagne a beaucoup souffert, mais elle s'est qualifiée. Elle affrontera l'Angleterre. Le Portugal va retrouver la Belgique. Écrémage très relatif dans cet Euro à 24 équipes, même si la Russie, la Pologne ou encore la Turquie peuvent avoir des regards, sont éliminées.
Le reste de l'actualité sportive et le Tour de France, ça y est, qui part samedi.
Oui, de Brest en Bretagne, hein, pas en Biélorussie, il ne faut pas se tromper en ce moment, avec des Français qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt, comme Julien Alaphilippe qui est champion du monde. Notre consultant Richard Virenque le voit jouer les étapes ou faire des coups plutôt que de viser le maillot jaune.
Le maillot jaune, oui, la première semaine, c'est possible, mais bon, c'est pas pour lui un objectif. Je pense que l'objectif premier, c'est une étape. Après, s'il est placé, il va le jouer, le maillot jaune, et il le défendra. Mais jusqu'à la fin, ça risque d'être compliqué. Vu les efforts qu'il a fait depuis le début de la saison, les objectifs qu'il a eus, il va plus tenter, comme il a fait l'année passée, de jouer les étapes sur le Tour de France.
Richard Virenque avec Gauthier Delhomèze. Le Tour, ça part samedi, à suivre évidemment sur Europe 1.
Lénaïque Monnier, merci à vous. Il est 6h12. Europe 1. C'est la nouvelle épreuve du bac 2021 et c'est une épreuve qui est crainte par de nombreux candidats. Le grand oral se tient jusqu'à la semaine prochaine et mon invité inattendu du jour va pouvoir donner quelques conseils ce matin aux lycéens qui préparent cette épreuve. Bonjour à vous.
Mais bonjour, Sébastien, du coup enchanté, le gagnant du grand oral de France 2 qui a eu lieu en mars 2021.
Eh oui, bravo à vous Sébastien Monteau, vous avez gagné ce grand oral de France 2 donc, qui récompensait le meilleur orateur, épreuve d'éloquence dans laquelle vous aviez défendu votre métier. Et c'est assez particulier parce que vous travaillez pour des pompes funèbres, vous êtes maître de cérémonie d'obsèques, sujet assez osé pour un grand oral. Bon, vous avez sans doute des conseils pour les lycéens. On vous retrouve dans quelques secondes. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
6h14 sur Europe 1. Mon invité inattendu a donc été sacré meilleur orateur de France au grand oral de France 2. De quoi pouvoir donner quelques conseils aux lycéens qui passent ce grand oral en ce moment. Sébastien Monteau, peut-être d'abord une première question. Comment être à l'aise quand on a le trac, quand on a la voix qui tremble un peu, quand on a le cœur qui bat? Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces candidats qui vont arriver stressés au grand oral?
Je cherche encore moi aussi. Je pense que déjà stresser, c'est une réaction tout à fait normale. Après, on a chacun plus ou moins des techniques pour se calmer un peu. Déjà stresser, c'est pas un défaut parce que ça prouve une bonne chose, c'est que ça prouve déjà une envie de bien faire. En tout cas pour moi, ça fait 6 ans que j'officie sur des cérémonies, j'ai l'habitude, j'en fais tous les jours et pourtant je suis toujours stressé, mais c'est entre guillemets du bon stress. Après,
et vous avez des petites techniques pour vous détendre, pour être plus à l'aise?
Mais très honnêtement, pas vraiment. Ce qui va juste me débloquer, c'est une fois que j'ai prononcé la première phrase. J'appelle ça le syndrome de la prise de sang. C'est-à-dire que moi, avant une prise de sang, je stresse toujours. Et puis après, une fois que c'est passé, enfin, une fois que l'aiguille est partie, ben, ça roule, quoi. Le train est en marche. Et pour l'oral, c'est pareil. Je suis toujours stressé. Et une fois que j'ai fait ma première phrase, la machine est en route et ça se fait tout seul. Hein.
Donc, il faut accepter ce stress et y aller, quoi. C'est ça, peut-être.
Oui, il faut l'accepter parce que
essayer
de trouver diverses techniques, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne solution. Il faut essayer de relativiser. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que concernant, on va dire, cet oral à proprement parler, Faut se dire que certes c'est une épreuve, mais on joue pas sa vie non plus. D'ailleurs dans la vie rien n'est figé, surtout professionnellement d'ailleurs. Il y a 40 ans, c'était pas rare d'intégrer un métier, une entreprise et d'y rester jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité de changer, même de métier, même plusieurs fois dans sa vie. Donc ça permet de relativiser, d'apaiser un petit peu ce stress, d'autant plus que le jury, il évalue une prestation générale et pas le degré d'angoisse de l'élève. Donc même si on a peur de bafouiller, c'est pas grave en soi. Ça m'arrive, moi le premier, donc je suis toujours vivant et ça me pose aucun souci. Donc il y a vraiment pas à stresser, même si je le comprends parce que j'y suis passé aussi. C'est tout à fait normal.
Bon, en tout cas, vous deviez avoir le trac, mais ça ne se voyait pas ce jour, le jour du concours sur France 2. Vous avez remporté donc ce concours du meilleur orateur, le grand oral de France 2, où justement vous parlez de votre métier. Vous menez des cérémonies d'obsèques. C'est un métier qui peut susciter des réactions lorsque vous en parlez. On va écouter ce que vous racontiez justement, comment les gens réagissent lorsque vous leur parlez de votre métier.
Oh là là, bon, il en faut. Hein. Comme si cela m'avait été imposé. Non, détrompez-vous. Je ne suis pas maître de cérémonie par défaut, mais clairement par choix. Et on peut être croque-mort et croquer la vie.
Voilà, on peut être croque-mort et croquer la vie, disiez-vous. Il faut comme ça des bonnes petites formules quand on est à l'oral, ça peut aider à se démarquer. C'est un conseil que vous pouvez donner aux lycéens.
Oui, ça va aider à se démarquer quand on prononce des phrases qui sont fortes. Après, je vais revenir, je vais dire quelque chose et ça va basculer sur votre question précédente concernant le conseil. Moi, le meilleur que je puisse donner, je pense, c'est soyez vous-même. Soyez juste sincère, honnête et ne jouez pas un rôle. Votre sincérité, en fait, c'est votre force. D'ailleurs, moi-même, pour la petite anecdote, quand j'ai gagné le concours, si vous voulez, j'avais pas vu ma prestation avant. Je l'avais pas vu parce que c'était une émission du coup qui a été enregistrée. Et quand je me suis découvert à l'émission, je m'en suis souvenu parce que il y a certains bouts de phrases, notamment quand je parle du passage des âmes, où il y a ma voix qui part un petit peu, en live, parce que je me suis ému moi-même. C'est-à-dire que je crois tellement en ce que je dis que presque je me suis fait moi-même monter les larmes aux yeux parce que c'était tellement criant de sincérité. Et je pense que ça s'est vu et je pense que c'est aussi ça qui a plu au jury. Et c'est exactement la même chose pour l'oral. Soyez
de ça dont vous avez probablement besoin, j'imagine, dans votre métier. Donc, quand vous menez ces cérémonies d'obsèques, faut être à l'aise à l'oral dans des circonstances qui ne sont vraiment pas faciles.
Ah ça, oui, c'est sûr. Après, les gens, ils ont besoin, et encore une fois, on peut faire ce parallèle avec l'oral du bac, même si ce sont deux choses et deux circonstances différentes, c'est que les gens, ils ont pas envie d'avoir un robot en face d'eux. Ils ont juste envie d'avoir un humain. Les plus belles cérémonies que j'ai pu faire, c'est pas forcément celles où j'ai fait de grands discours de 3 km de long, pas du tout. J'ai juste été moi-même, les gens l'ont ressenti, j'ai été humain, j'ai été sincère, et je pense que c'est ça qui marque les gens, et je pense que c'est ça aussi qui peut faire qu'on peut se démarquer plus que quelqu'un qui va réciter quelque chose qu'il a appris par cœur, parce que ça va se voir.
Voilà, soyez vous-même et surtout prononcez la première phrase puisque le stress s'arrête à ce moment-là. Voilà pour les conseils de Sébastien Monteau ce matin à destination des candidats au bac. Sébastien Monteau, gagnant donc du grand oral de France 2. Merci d'être passé nous voir ce matin.
Ben, merci à vous, merci de l'invitation, avec plaisir. Et du coup, je souhaite bonne chance à tous.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h20 sur Europe 1, un nouveau sommet européen aujourd'hui entre les 27, avec au cœur des discussions la crise politique déclenchée par la loi hongroise anti-LGBT. Le texte interdit la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Bruxelles valide le plan de relance français de 100 milliards d'euros, annonce de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. 40 milliards d'euros seront financés par l'Union européenne. Et puis La Poste va reprendre la distribution de 5 millions de tracts en vue du second tour des élections régionales. Après des dysfonctionnements au premier tour, la société Adrexo, en charge de l'acheminement de ses professions de foi, n'a pas réussi à toutes les distribuer. Et le 5-7 continue en musique avec Céline Dion, l'album 2, le récit dans la partition. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
6h22 sur Europe 1, c'est l'heure d'ouvrir la partition d'Amblin Roche. Chaque matin, l'histoire derrière une chanson, un artiste, un album. Et nous sommes le 24 juin, aujourd'hui c'est la Saint-Jean, c'est la fête nationale du Québec. Oui. Voilà pourquoi on a pensé à Céline Dion, la Québécoise à qui on doit le disque en français le plus vendu de tous les temps. Donc Céline Dion, Amblin Roche.
En 1995, la France découvre un phénomène, Sébastien. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, ils savent depuis longtemps qu'ils possèdent un trésor national. Quand Jean-Jacques Goldman entend sa voix pour la première fois, il est subjugué.
Une fleur abandonnée, ce que les autres ont laissé de côté. Plus assez neuf, plus assez. Quand t'as placé tout dehors, ne reste que ses phrases comme il l'autrise.
Alors d'habitude, ce sont les autres qui viennent le chercher, Jean-Jacques Goldman. Mais oui, cette fois, avant même de rencontrer Céline Dion, Goldman commence à lui écrire des chansons.
Avant même qu'elle accepte de travailler avec lui. Il imagine quels seraient les mots, quelles seraient les mélodies qui iront avec sa voix. Jean-Jacques Goldman lui envoie ses premières maquettes. Leur accueil est d'abord mitigé, figurez-vous. La chanteuse hésite, puis finit par craquer et accepte la proposition de Goldman. Pendant 8 mois, il va plancher sur une dizaine de chansons.
Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux déteignent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent.
Et en novembre 1994, il se retrouve dans l'intimité d'un petit studio parisien avec très peu de moyens.
Oui, l'ami et arrangeur de Jean-Jacques Goldman, Éric Benzi, raconte dans Le Parisien, quelques musiciens passent jouer, mais pendant 10 jours, nous ne sommes que 5, Céline, son mari et manager René Angélil, son ingénieur du son, Jean-Jacques et moi.
Jean-Jacques Goldman a une idée très précise de ce qu'il attend de Céline Dion.
Il veut la faire déchanter. Elle est habituée à être toujours dans la performance. Lui veut lui faire oublier ses réflexes de chanteuse américaine, qu'elle utilise moins de puissance. Il faut qu'elle chante pour un bébé dans ses bras. La magie opère. 12 pistes de l'album 2 sont enregistrées.
Vol, vol, petite aile, main douce, mon hirondelle, va-t'en loin.
Et le résultat va au-delà des espérances de Jean-Jacques Goldman.
Je n'ai jamais travaillé avec des gens d'un tel niveau technique, dit-il. Pas de problème de justesse ou de tempo. Tous ont conscience de vivre un moment intense dans une parfaite communion, hein, dans ce petit studio parisien. À l'écoute de chaque prise, Céline Dion et son mari René Angélil pleurent et se prennent dans les bras. Elle confiera dans son autobiographie deux. Au fond, c'est notre histoire à René et à moi. Mention toute particulière pour le premier extrait du disque, la seule chanson francophone qu'elle chante lors de ses tournées internationales, celle qui va résonner dans la basilique de Montréal lors des obsèques de son mari en 2016.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que ces douze appellasses, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je sais pas jouer. on s'attache avant que l'on se gâche. Je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique. Je dirai sans remords que tu m'aimes encore. Je m'invente.
Exemplaires vendus dans le monde pour cet album écrit par Jean-Jacques Goldman. Deux. Et la voix de Céline Dion pour Que tu m'aimes encore.
Et pour c'était une très bonne fête de la Saint-Jean à tous les Québécois, c'est la fête nationale du Québec aujourd'hui.
Voilà, et pour ceux qui l'attendent en France, il va falloir encore être patient. Céline Dion, septembre 2022, les concerts repoussés à Paris. Et juillet 2023 pour le festival des Vieilles Charrues. Merci à vous, Omblin Roche. La partition, à demain.
À demain.
Laurent Cabrol, c'est à vous pour cette météo encore un peu agitée.
Non.
Non,
c'est pas pour moi, c'est pas à moi. Écoutez Céline Dion, bon sang, bonsoir. C'est fabuleux cette chanson-là. Alors sur cet air magnifique, que vais-je vous dire ? Des orages, ras-le-bol. Alsace, Vosges, Franche-Comté, Alpes du Nord, région lyonnaise, des orages parfois violents aujourd'hui. Pardonnez-moi d'avoir encore à dire ça. J'aurai encore à le dire plusieurs jours, quelques jours. Aquitaine, Béarn, Midi-Pyrénées, Auvergne, Cévennes, Bourgogne, Ardennes, des averses plutôt calmes, ça existe. Oui. Et puis sur la Champagne, région parisienne, le centre, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, la Bretagne, la Normandie, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais. Là, il fera relativement beau et à Paris, il fera beau ce soir. Vous allez me dire, ça ne sert à rien, mais quand même, une belle soirée, c'est sympa. Mais dans l'ensemble, il ne pleuvra pas dans toutes ces régions, y compris sur la capitale. Le soleil méditerranéen est toujours là. Les températures maximales entre 20 et 28 degrés, 28 à Marseille, 20 degrés à Bourges et 21 à Paris.
Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure, juste avant 7h.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Allez, bienvenue sur Europe 1. Tout de suite, votre journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
6h30 sur Europe 1.
Mais en fait, ça serait bien que la France gagne quelques matchs quand même. Parce que les matchs nuls, c'est bien. Mais les matchs gagnés, c'est mieux.
Et il faudra désormais les gagner, les matchs. Après un score de 2-2 hier soir face au Portugal, l'équipe de France de foot s'avance vers les matchs à élimination directe. Le 8e de finale de l'Euro, ce sera face à la Suisse lundi. Va-t-on vers un recul en matière de traçabilité ? Les étiquettes des produits de l'agroalimentaire pourraient devenir moins précises sur l'origine géographique des ingrédients. Et puis des dizaines de millions d'euros de crypto-monnaies ont disparu. Le parquet de Paris enquête pour vol en bande organisée.
Après le journal, Karine Viard est mon invitée, l'actrice. C'est à l'affiche de Tokyo Shaking au cinéma, film européen qui nous emmène donc au Japon au moment de la catastrophe de Fukushima. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On ne pensait pas se satisfaire d'autant de matchs nuls. Et pourtant, à l'Euro de foot, la France termine première de sa poule, qu'on avait surnommé le groupe de la mort, après une seule victoire et deux résultats d'égalité, dont ce match hier 2-2 face au Portugal. De quoi imaginer l'intensité de la soirée pour les supporters, surtout quand ils étaient mélangés. Alexandra Sirgan.
À l'intérieur du bar, les supporters portugais vêtus de rouge et vert. Les Français, eux, sont installés sur la terrasse. Et d'un bout à l'autre, les chants s'affrontent. Pendant que les buts s'enchaînent, dont un doublé de Benzema qui réjouit les supporters français. Même si les avis restent partagés sur la performance des Bleus.
Non mais en fait, ça serait bien que la France gagne quelques matchs quand même. Parce que les matchs nuls, c'est bien. Mais les matchs gagnés, c'est mieux.
C'est un peu décevant, mais on
passe et on se réserve pour la suite.
Très très content, on finit premier de la poule, c'est génial. On va jouer contre la Suisse, c'est le meilleur tirage qu'on peut avoir comparé aux Allemands et aux Portugais.
Du côté des supporters portugais comme Francesco, c'est le soulagement de voir leur équipe qualifiée.
On n'a pas gagné mais on a passé ce qui était le plus important contre une équipe comme la France qui est très très forte. Je suis content avec notre performance ce soir.
Des chants plein la tête, supporters français comme portugais se projettent déjà en 8e de finale.
Reportage Europe 1 d'Alexandra Sirgrand. Que se passe-t-il dans les Landes où le variant Delta du coronavirus circule extrêmement vite?
Oui, de quoi déclencher une visite du Premier ministre Jean Castex et d'Olivier Véran dans ce département. Ce matin, le seul à être repassé au-dessus du seuil d'alerte. Anne Le Gall, plus globalement, le variant Delta progresse.
Oui, en France, au niveau national, ce variant Delta ne concerne que 9 à 10% des contaminations. Mais dans les Landes, il concerne déjà 70% des cas positifs. Il y a aussi des clusters dans le Bas-Rhin et en Île-de-France, où le variant Delta est responsable de 12% des nouvelles infections. Alors à chaque fois, des mesures de dépistage ciblées sont mises en place. Mais la vraie parade reste en réalité la vaccination avec 2 doses. Or, 40% des Européens de plus de 60 ans ne sont pas encore totalement vaccinés, rappelle le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Ces experts n'excluent pas un retour de l'épidémie au même niveau que l'année dernière si l'on relâche trop vite les gestes barrières cet été, car d'après leurs projections, ce variant Delta devrait représenter fin août 90% des nouvelles infections en Europe.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Une meilleure rémunération des agriculteurs, cet objectif est à nouveau mis sur la table par une proposition de loi.
Oui, qui concernera aussi les étiquettes des produits alimentaires, mais ne pensez pas qu'on va y gagner en traçabilité, c'est même tout l'inverse, Maud Descamps.
Des lasagnes à la viande ou un plateau de charcuterie avec pour seule indication sur l'emballage deux lettres UE, Union Européenne. Viande française, belge ou polonaise, vous n'en saurez rien. C'est la brèche qu'ouvre le texte discuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pour que la mention du pays d'origine soit obligatoire, il faudra prouver qu'un lien existe entre l'origine du produit et ses propriétés nutritives, par exemple. Une aberration pour Olivier Andreau de l'UFC Que Choisir.
On est vraiment scandalisé par cette proposition de loi puisqu'elle va complètement à rebours des demandes des consommateurs. Les consommateurs, après les multiples scandales alimentaires, veulent une transparence totale sur les recettes de l'industrie, notamment sur l'origine de leurs ingrédients, tout simplement pour des raisons d'hygiène, des raisons de traçabilité. Et puis, plus généralement, on voit maintenant que les consommateurs sont également soucieux de participer à l'économie locale.
Il y a quelques semaines, le géant Lactalis a obtenu l'annulation de l'étiquetage géographique sur les produits laitiers. Arguant qu'utiliser du lait français, belge ou encore espagnol n'a aucune importance. Le produit final est le même.
6h35 sur Europe 1. Et si le casse du siècle se passait dans le monde des crypto-monnaies?
On se demande en tout cas où sont passés environ 40 à 58 millions d'euros en diverses monnaies virtuelles, des sommes qui étaient gérées par une association, RR Crypto, basée près de Dijon. Mais Justin Morin, c'est le parquet de Paris qui enquête.
Oui, c'est la section cybercriminalité qui s'est saisie du dossier. Après une première plainte déposée la semaine dernière par le PDG de RR Crypto, il se dit lui-même victime d'une vaste escroquerie, sans que cela soit pour le moment confirmé. Difficile de connaître le nombre exact d'investisseurs floués, il serait plusieurs milliers. Valentin, lui, avait investi 22 000 euros il y a 2 ans. Aujourd'hui, son portefeuille dépassait les 100 000 euros. Il avait aussi fait investir des proches.
Là, on est plus dépité qu'autre chose. Tout le monde est un peu perdu, je pense. Personne ne sait vers laquelle se tourner. On nous dit là, là. Clairement, on ne sait pas quoi faire. Et c'est là que ça devient compliqué, quoi. C'est pour ça, en partie, que j'essaye de me battre. J'essaye de faire quelque chose et de faire avancer les choses avec d'autres amis, justement, et investisseurs pour essayer que ça ne se reproduise plus, quoi.
Le fonds dijonnais RR Crypto ne fait pas partie des sociétés de confiance enregistrées auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Aucune garantie, donc, pour les milliers de victimes qui risquent de ne jamais revoir leur argent.
Justin Morin, du service police-justice d'Europe 1. Le jury du Festival de Cannes dévoilé il y a quelques minutes. On savait qu'il serait présidé par le réalisateur américain Spike Lee. On apprend ce matin que Mylène Farmer sera à ses côtés. C'est un petit événement, ainsi que Mélanie Laurent et Tahar Rahim. Le festival de Cannes qui commence dans 2 semaines, le 6 juillet.
Et puis c'est une expérience étonnante. On va parler de musique maintenant. Une expérience étonnante que nous propose le DJ Michael Canitro, installé dans des monuments pour mixer sa musique et pour en faire un film.
Oui, comme une sorte de clip géant. Le Mont Saint-Michel, le château de Vincennes, le château de Pierrefonds également. Hier soir, c'était dans un phare, ou plutôt au sommet d'un phare. Reportage d'Angèle Châtelier pour Europe 1.
Sur la pointe de
de l'île de Ré, le phare de la baleine est illuminé grâce à une soixantaine de projecteurs de lumière ou de néons. Le DJ Michael Canitro, lui, y a installé ses platines tout là-haut. Et pour y accéder, il faut monter des marches. Beaucoup de marches.
J'ai dû le faire à peu près 5-6 fois déjà. Ça fait les cuisses.
Près du but, un technicien s'occupait des derniers préparatifs.
Vous allez devoir enjamber un appareil lumière.
Puis 257 marches plus tard.
On voit l'ensemble de l'île dorée d'un côté et de l'autre côté l'infini de l'océan. On est super, là. C'est une vue vraiment incroyable.
L'idée du projet de Michael Canitro, appelé le Monumental Tour, jouait à l'intérieur de monuments pour valoriser notre patrimoine, mais pas que.
C'est aussi de continuer à démocratiser la musique électronique. Rien de mieux finalement que de pouvoir justement la jouer dans des sites qui ne sont pas faits pour ça et de pouvoir montrer finalement qu'elle est compatible avec tous les univers et toutes les générations aussi.
Le DJ a commencé à jouer une fois la nuit tombée. Niché sur le phare de la baleine, il ne voit pas lui les lumières s'agiter au rythme de sa musique. Seuls les spectateurs pourront en profiter lorsque le film de ce concert, aussi musical que visuel, sera en ligne dans quelques jours.
La musique électro de Michael Canitro et que l'on verra donc bientôt également en images. Et de la musique, on va partir au cinéma. Merci à François Geffrier, le journal. Il est 6h38.
Europe 1.
Au cinéma, parce que je salue Karine Viard qui est l'invitée du 5-7. Bonjour et bienvenue Karine Viard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes à l'affiche de Tokyo Shaking, film européen signé Olivier Payon, dont l'histoire se déroule au Japon, donc en mars 2011, au moment de la catastrophe de Fukushima. Installez-vous, on va en parler dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 7h20 sur Europe 1 et Karine Viard est avec nous, invitée du 5-7, pour évoquer ce film Europe 1 qui est à l'affiche Tokyo Shaking d'Olivier Payon. Alors, on est en 2011 dans un contexte qui est, lui, bien réel. Le séisme qui frappe le Japon, le tsunami et la catastrophe de Fukushima. Vous avez tourné ce film à Tokyo. Karine Viard, et vous êtes une expatriée française dans le film. Vous avez un poste de direction dans une banque et tout ça vous tombe dessus, en fait.
Exactement. Ça fait 3 jours que j'ai pris mes fonctions. J'ai pensé faire un certain travail, on m'en demande un autre, et débarque cette catastrophe. J'ai tout juste mes enfants. Mon mari est resté à Hong Kong, là où nous habitions avant. Je suis chef et je dois gérer une situation de crise totalement inédite parce que on nous livre les indications au compte-goutte. Mon supérieur hiérarchique me demande de rester calme et de gérer tout ce que lui ne gère pas en fait puisque lui va fuir. Et il me dit « Ne me faites pas regretter mon choix, il ne voulait pas de vous parce que vous étiez une femme et que vous avez des enfants, donc maintenant vous devez assumer. » Et je suis prise comme ça, dans des choix cornéliens, à essayer de me rassurer en me disant « Tout va aller très bien » et en fait la situation se délite et heure après heure, on ne sait pas qui croire.
Coincé entre vos enfants à protéger, vos salariés qui sont autour de vous et tout ça en pleine panique, on va écouter un extrait de la bande-annonce.
Qu'est-ce qui se passe ? C'est une alerte tsunami. Ils annoncent des vagues de 6 mètres. Ils demandent d'évacuer.
Une copine m'a dit qu'il y a une centrale qui va exploser. J'ai appelé papa, il dit qu'il faut partir.
Mais c'est à 250 km au nord, à Fukushima. Bon, mais ça va, le cœur est pas touché.
Un capitaine ne quitte pas le bateau en pleine tempête.
Je me suis battu pour vous avoir à ce poste.
La capitaine ne quitte pas le navire, Karine Viard, donc dans
en
Tokyo Shaking,
tempête, oui.
Au cinéma. En pleine tempête, c'est le cas de le dire. Il y a quelque chose de très frappant dans le film, c'est le décalage entre les Français expatriés comme vous et les salariés japonais qui, eux, ne veulent pas fuir.
Ce qui est assez intéressant avec ce film aussi, c'est qu'on voit bien ce choc des cultures, c'est-à-dire cette rencontre impossible entre notre culture à nous et la culture des Japonais. C'est-à-dire que eux sont dans une obéissance, évidemment, sont dans une espèce de calme. Tu vois tout le temps plus grand que l'individu, c'est-à-dire le groupe a beaucoup plus d'importance que l'individu. Ça veut dire que les gestions de crise se font toujours avec beaucoup de calme, beaucoup de tenue, etc. Mais qu'en même temps, ils sont dans une obéissance presque aveugle. Et qui font confiance à leurs dirigeants, si même les dirigeants ne les protègent pas vraiment.
Il y a une personnage japonaise à un moment qui dit j'ai peur d'être accusée d'être lâche en partant.
Ben oui, parce qu'elle dit en fait, il y a quelque chose qui est pire que tout dans notre culture, c'est la lâcheté en fait. C'est d'avoir déserté, démissionné, c'est impossible pour un Japonais. Parce que là, toute la société te bannit, toute la société te montre du doigt. Et ça, c'est pire que tout.
On est lâches, nous, les Français?
D'abord, c'est ce genre de généralité, c'est toujours un peu compliqué. Mais je pense qu'on est tous capables de lâcheté et qu'on est tous aussi capables de courage.
Vous étiez familière de cette culture japonaise?
Bah, disons que le Japon est vraiment un pays qui me fascine et qui me plaît énormément pour la dichotomie incroyable entre modernité et tradition. J'y suis allée 3-4 fois en touriste. Et puis là, y travailler, ça a été merveilleux, parce que ça m'a permis d'être dans des relations plus profondes avec des gens qui habitent là-bas et avec qui j'ai pu avoir certaines discussions. Mais par exemple, je sentais que je pouvais pas parler de ce tsunami et de... Enfin, je veux dire, il y avait évidemment encore le traumatisme de cet épisode, mais je pouvais pas mettre en doute le gouvernement, etc. C'était trop compliqué de leur dire « Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a bien géré la crise ?» etc. Ça, c'était impossible de le dire.
Parce que c'est vrai que dans cette crise de Fukushima, les autorités vont mettre beaucoup de temps à admettre qu'il y a un risque pour la population. Ça nous rappelle aussi cette crise que nous avons vécue du Covid au début.
Ben oui, tout à fait. Puis, je veux dire, dans le film, il y a les mots confinement, télétravail, qui sont des mots qu'on ne connaissait pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans notre vocabulaire usuel. C'est incroyable.
Alors, le monde de l'entreprise, justement, tel qu'il est décrit dans le film, il est particulièrement cruel. Hein, et votre personnage en est en fait la victime. Elle est complètement abandonnée.
Oui, c'est-à-dire que en même temps, elle a été matricée complètement par ce monde de l'entreprise. On peut imaginer qu'elle a fait des hautes études, qu'on lui a appris à penser l'entreprise d'une certaine façon, à penser les gens qui font partie de l'entreprise d'une certaine façon. Et elle est confrontée peut-être pour la première fois de sa vie à une crise existentielle de son travail, en fait.
Elle dit à un moment, on est de bons petits soldats, sauf qu'elle bascule, elle ne veut plus être un bon petit soldat.
Alors c'est ça que j'aime bien aussi dans le film, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et qu'à la fois c'est la grande histoire, cette histoire du tsunami, c'est cette grande histoire qui va révéler le destin ordinaire d'une petite histoire en fait. Et que d'un seul coup, effectivement, cette femme qui a été complètement matricée pour obéir et depuis toujours, va se rebeller et va finalement désobéir et va faire acte de courage. Et ça j'aime beaucoup parce que c'est une héroïne par défaut en fait. Et j'aime bien ça.
Karen Viard, ça vous est déjà arrivé à vous de vous révolter, d'arrêter d'obéir à votre patron, en l'occurrence,
ah, je sais
pas, votre réalisateur?
C'était dans mon biberon, je crois. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de... Je suis pas très docile, je crois.
Vous n'êtes pas un bon petit soldat.
Je suis très gentille, mais je suis pas un bon petit soldat, non. À la fois, je suis bonne élève aussi. À la fois, j'ai tout le temps envie de bien faire. À la fois, je suis sérieuse, je travaille, je suis autonome et tout ça. Donc, on pourrait dire d'une certaine façon que je suis une bonne élève, mais je suis pas un bon petit soldat, je crois.
Tokyo Shaking, c'est un film européen. Il est en salle. Karine Viard, on va vous voir tout l'été au cinéma parce que le 18 août, vous serez aussi à l'affiche des Fantasmes de Stéphane et David Fonkinos, avec qui vous aviez déjà tourné dans Jalouse.
Absolument.
Et on vous verra aussi au mois de septembre dans L'Origine du Monde de Laurent Lafitte. Ça fait beaucoup de sorties, il y a embouteillage.
Ça fait beaucoup de sorties, j'ai pas envie qu'on m'oublie.
Bon, on vous oublie pas et on est ravis de vous revoir en salle. Karen Viard, merci d'être passé par Europe 1 ce matin.
Merci, merci beaucoup, au revoir. Europe 1.
6h46 sur Europe 1, l'innovation du jour à suivre avec Anis et Mbida. A tout de suite.
Europe 1. Sébastien Krebs.
Il est 6h49 sur Europe 1. 40 milliards d'euros pour la France. L'argent européen va commencer à arriver après la validation du plan de relance français par Bruxelles. C'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui l'a annoncé hier. Après ces problèmes d'acheminement lors du premier tour des régionales, la société privée Adrexo en appelle à son concurrent, La Poste, pour livrer 5 millions de courriers contenant les professions de foi et les bulletins de vote pour le second tour dimanche. Et puis enfin, début en bleu pour Karim Benzema, auteur d'un doublé hier soir. Match nul de partout pour l'équipe de France face au Portugal. Les Français qualifiés, premiers de leur groupe, feront face à la Suisse en 8e de finale. Ce sera lundi soir à Bucarest.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, À bicyclette
ce matin, Anis et Mbida, bonjour.
Bonjour Sébastien Krebs.
Pour votre innovation du jour, c'est le vélo du futur. Non seulement il s'équilibre tout seul, mais en plus il est autonome. Le vélo du futur sera autonome, c'est-à-dire il peut venir à notre rencontre comme un taxi, comme un VTC.
Oui, et c'est vraiment impressionnant. On vous a mis une vidéo sur le hashtag Europe 1. On y voit un vélo fantôme sans les petits trous derrière qui avance tout seul et qui évite les obstacles. Il peut même s'arrêter sur place et rester parfaitement à l'équilibre sans béquille. Allez voir, hein, c'est vraiment bluffant. Et c'est une technologie qui est baptisée Xuan. Elle a été développée par des chercheurs chinois en modifiant simplement un vélo traditionnel. Je vous avais déjà parlé de trottinettes autonomes capables d'aller se ranger toutes seules là, pour éviter le bazar dans les rues. Eh bien, on pourra bientôt voir la même chose avec des vélos en libre-service.
Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on monte dessus, on pourra s'arrêter au feu sans poser le pied par terre, par exemple ?
Alors non, hein, malheureusement, hein, dès qu'il y a quelqu'un sur la selle, il est incapable de rester à l'équilibre à l'arrêt. En revanche, quand on roule, le vélo va continuer à se stabiliser tout seul. Et dès qu'il sent qu'il va perdre l'équilibre, il va tourner le guidon à gauche, à droite, comme on le fait naturellement, à faible vitesse. Alors il ne pourra jamais tout rattraper, hein, mais ça va largement réduire le risque de chute.
C'est un vélo qui est déjà commercialisé ?
Non, c'est avant tout un ensemble de technologies proposées aux fabricants pour qu'ils les intègrent à leurs vélos. Et les premiers intéressés, ce sont les fabricants de vélos en libre-service, figurez-vous.
Ah oui.
Pour une raison toute simple, ils veulent que leur flotte soit utilisée par le plus grand nombre et pas seulement par quelques cyclistes chevronnés. Or, c'est le genre de technologie qui permet justement à tous ceux qui sont un peu moins à l'aise d'être un peu plus en confiance sur deux roues. Je pense notamment aux seniors qui perdent progressivement l'équilibre avec l'âge.
Ouais, le vélo autonome qui vient à votre rencontre, ça évitera peut-être de faire le tour des bornes de vélo en libre-service pour essayer d'en trouver un qui fonctionne. Merci Anissa Amida. L'innovation du jour chaque matin sur Europe 1. Et à 6h51, nous allons ouvrir notre revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 à travers le monde. Commençons en Allemagne ce matin. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour.
De quoi parlent ce matin les journaux allemands ?
La une, c'est évidemment la qualification in extremis de l'Allemagne pour les huitièmes de finale de l'Euro, mais l'essentiel des commentaires de la presse reviennent sur la passe d'armes autour du drapeau arc-en-ciel. L'UEFA a interdit que le stade de Munich soit éclairé aux couleurs LGBT. Qu'à cela ne tienne, rétorque le Bild, qui décrète la victoire de l'amour. Car en réponse, dans toute l'Allemagne, 46 stades ont été illuminés et aussi tous les bâtiments officiels de Munich. Plusieurs grandes entreprises ont rejoint le mouvement, comme Siemens ou BMW. Pour le journal de gauche Stat, ce n'est que de l'affichage politique. Cela ne devrait pas beaucoup impressionner le président hongrois Viktor Orban. Mais pour le Süddeutsche Zeitung, la tension était bien palpable dans le stade. Pendant l'hymne allemand, les supporters hongrois ont sifflé et hurlé des chants homophobes. Le journal s'interroge comment une toute petite idée symbolique a-t-elle pu se transformer en une telle polémique ?
Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1. Direction les États-Unis maintenant. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous interpelle dans la presse chez vous à New York ?
Eh bien, le témoignage de Britney Spears devant un tribunal de Los Angeles. La chanteuse a demandé la fin de sa mise sous tutelle, explique le Washington Post. Britney Spears, parfois à bout de souffle, s'est dite traumatisée par ce système. Depuis 2008, c'est son père qui contrôle son patrimoine estimé à 60 millions de dollars, explique le New York Times, qui rappelle que Britney Spears a été placée sous tutelle après des inquiétudes sur sa santé mentale et sa toxicomanie. Pour le Los Angeles Times, la chanteuse a confirmé ce que ses fans soupçonnent depuis longtemps. Elle veut sortir, ne plus payer ceux qui lui disent tout le temps non. « Je ne peux pas dormir, je suis tellement en colère et je suis déprimée. Je veux juste retrouver ma vie », a déclaré la pop star. CNN précise que des fans se sont réunis dans le centre de Los Angeles pour la soutenir autour d'un hashtag lancé depuis plusieurs années maintenant. « Free Britney, libérez Britney ».
Free Britney, ce mouvement donc aux États-Unis en soutien à Britney Spears. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 à New York. Nous terminons ce tour du monde en Chine ce matin. Bonjour Sébastien Lebelzik.
Bonjour.
Quels sont les gros titres à Pékin ?
Alors la une de l'actualité en Chine aujourd'hui, ce vaste plan dévoilé par le gouvernement pour développer le vin chinois et particulièrement celui de la région du Ningxia, 1000 km à l'ouest de Pékin. C'est le China Daily qui nous décrit par le menu cette région qui veut concurrencer Bordeaux et produire 600 millions de bouteilles par an d'ici 2035. Le magazine économique Caixin nous explique que les exportations de vin du Ningxia ont augmenté de 46% l'an dernier, notamment vers les États-Unis et l'Europe. Mais il faut aussi séduire le consommateur chinois, chacun en Chine buvant en moyenne 30 fois moins de vin qu'un Français. Le magazine du vin de Chine nous explique aussi que ce rouge du Ningxia est de grande qualité et le domaine viticole chinois est déjà le deuxième plus grand du monde derrière l'Espagne et juste devant la France.
Sébastien Lebelzik, merci à vous depuis Pékin pour Europe 1. Europe 1. Il est 7h05, retour sur Portugal-France, match nul de partout, mais qui permet quand même à la France d'être première de son groupe dès le début du 7-9 de Mathieu Béliard qui est de retour, il s'installe. À tout de suite sur Europe 1.
6h57. Très belle journée à vous tous. À demain avec toute l'équipe du 5-7 dès 5h du matin. Bonjour Mathieu Béliard.
Avec toute l'équipe. Sébastien, bonjour. Comment ça va?
Très bien.
C'est comme le vélo, je vous ai écouté. Hein, tout va bien. Bah, on est de retour. Vous l'avez suivi de l'extérieur, évidemment, un mouvement de grève inédit à Europe 1. 6 jours et le retour de l'équipe, c'est aujourd'hui. Retour de la rédaction au complet. Pas d'antenne dégradée ce matin. Vous informer, vous réveiller, vous divertir un peu aussi et vous écouter. C'est cette matinale que j'ai le plaisir, l'honneur de présenter. Jeudi 24 juin 2021, le monde a changé. On va vous le raconter. Au bout de la tension, les Bleus finissent premier du groupe de la mort à l'Euro. 2-2 face au Portugal, doublé de Benzema. Prochaine adversaire en 8e, désormais la Suisse. On va en parler tout de suite, c'est à la une du journal de Marion Calais qui arrive et puis avec Virginie Fulpin bien sûr. À la une également ce matin, les régionales toujours. Manuel Valls, invité de Sonia Mabrouk à 8h15, lui qui appelle à ne pas voter pour la gauche en Ile-de-France parce qu'allié avec la France insoumise, vous entendrez ce matin que la liste emmenée par l'écologiste Julien Bayou croit en ses chances face à Valérie Pécresse. Et puis ce fameux variant Delta, on va beaucoup en parler. Il devrait représenter 90% des nouveaux cas de Covid en Europe d'ici à la fin du mois d'août. Est-ce qu'il faut pour autant s'en inquiéter? Pas forcément, vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Nous allons en parler avec le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan. En Israël, il devrait vous rassurer, la vaccination n'empêche pas toujours les contaminations, mais protège des cas les plus graves. En Israël, on alerte toutefois sur le risque d'une nouvelle vague depuis que ce variant est sur le territoire. Les infos, les précisions, le dossier de la rédaction d'Europe 1 dans le journal de 8h également. Il est 6h58 et Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo. Bonjour mon cher Laurent.
Très bien, salut mon cher Mathieu. Cet été un peu comme on ne l'aime pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire frais le matin et orageux l'après-midi. Alors c'est ce type de temps que nous avons maintenant depuis plusieurs semaines et qui va durer encore aujourd'hui, demain et après-demain. Encore que demain, ça sera pas mal hein, quand même. Les éclaircies vont l'emporter une grande partie de la journée, demain et après-demain, mais le congé de fin de semaine s'annonce quand même encore un peu gris. Bon, on y reviendra. Dans l'immédiat, je vous donne les températures actuelles rapidement entre 11 et 16 degrés. C'est 2, 3, 4 degrés au-dessous des normales. Et puis, les orages, où seront-ils? Eh bien, ils seront sur l'Alsace, les Vosges, la Franche-Comté, les Alpes du Nord. Il y en aura probablement en région lyonnaise aussi. Et déjà de la pluie sur la Moselle. Déjà, les orages ont pointé leur bout d'éclairs ce matin sur la Saint-Étienne et Annecy. Donc les zones d'orage sont là dans les régions de l'Est. Les éclaircies vont apparaître en Champagne, en région parisienne, centre, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Bretagne, Normandie, Picardie Nord. Des éclaircies à Volo dans le courant de l'après-midi. Super. Sur l'Aquitaine, le sud de l'Aquitaine, le Béarn, le Midi-Pyrénées, l'Auvergne, la Bourgogne et les Ardennes. Des averses plutôt calmes. Oui, calmos. Et puis sur en Méditerranée, du soleil. Voilà, je crois que tout le monde a été cité. C'est le principe de cette météo sur Europe 1. Les températures maximales entre 20 et 25 degrés. Hein. Ben oui, c'est frais, que voulez-vous? C'est frais, c'est
ça, c'est rafraîchi. On allez, a plusieurs frais, tendances, plusieurs nuances d'averse aussi, j'ai entendu. On a vu ça ces derniers jours, effectivement. Merci Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute le monde changer.